Madame le Président, chers collègues, les frontières de l'Union européenne ne sont pas statiques. Elles peuvent très bien évoluer. Évidemment, elles évoluent chaque fois que l'Union européenne accepte de nouveaux membres, bien sûr. C'était le cas dernièrement lorsque la Croatie a adhéré le 1er juillet 2013. Mais on peut aussi imaginer que certains États membres sortent de l'Union européenne. Ça, c'est le cas du Brexit. Autre cas de figure envisageable, c'est que les États membres pourraient très bien rester dans l'Union européenne, mais leurs frontières à eux pourraient évoluer. Par exemple, si une partie de leur territoire devenait indépendant. Alors là, je pourrais citer l'exemple de l'Écosse, de la Flandre ou encore de la Catalogne. Hein, vous savez qu'il y a certains mouvements indépendantistes. Alors, si ces mouvements indépendantistes obtenaient gain de cause, on pourrait imaginer que ces régions-là deviendraient indépendantes. Alors, prenons l'exemple de la Catalogne et imaginons que demain la Catalogne devienne indépendante. Et ça veut dire que ce qui reste de l'Espagne serait toujours membre de l'Union européenne, mais la Catalogne, puisque c'est un nouvel État, elle ne serait pas membre de l'Union européenne, pas d'office. Et donc, ça veut dire que les frontières de l'Union européenne, eh bien, se seraient déplacées du jour au lendemain de par la sortie de la Catalogne. Alors peut-être que la Catalogne demanderait à devenir membre de l'Union européenne. Et là, les frontières redeviendraient ce qu'elles avaient été. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est tout à fait possible que ces frontières évoluent et que ce soit le cas à cause des mouvements indépendantistes. Mais ailleurs en Europe, la tendance n'est pas vers l'indépendantisme, mais plutôt vers la réunification. Je vais prendre deux exemples. Chypre, d'abord. Hein, Chypre qui est coupée en deux, puisque la partie nord est occupée par la Turquie, et le sud de l'île espère que le nord reviendra dans le giron chypriote. Je pourrais également citer l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni et la République d'Irlande qui est indépendante. Et nombreux sont ceux qui espèrent qu'un jour il sera possible de réunifier ces deux territoires. Alors ce sera peut-être un jour une réalité, oui. Mais si les deux parties veulent sérieusement envisager cette réunification, et je dis bien si elles veulent l'envisager, hein, on verra, alors je pense qu'il serait bon qu'elles tirent profit des enseignements de la réunification allemande en la matière. Alors, petit rappel d'histoire, vous vous souvenez certainement comme moi la date historique du 9 novembre 1989, hein, c'est la date de la chute du mur de Berlin. Vous vous souvenez alors certainement du 3 octobre 1990, date de la réunification des deux Allemagnes, une réunification qui a mis fin à une véritable aberration de l'histoire. Alors, personnellement, je ne connais personne qui souhaiterait revenir sur cette réunification et qui estime que la réunification des deux Allemagnes était une erreur. Par contre, je connais pas mal de monde qui estiment que des erreurs ont été commises dans la manière dont la réunification s'est faite. Premier exemple, sans même parler des régimes politiques, hein, moi je ne fais pas de politique ici, il faut quand même constater de manière purement objective que les sociétés d'Allemagne de l'Ouest et d'Allemagne de l'Est étaient radicalement différentes. Et chacune offrait des forces et des faiblesses, elles avaient chacune des richesses et des lacunes. Mais au lieu de fusionner les deux pays, au lieu de véritablement d'en arriver au meilleur des deux mondes, hein, bref, au lieu d'unifier finalement les deux pays, eh bien ce qui s'est passé, c'est que la RDA a adhéré à la RFA. Elle a été absorbée par la RFA. Et donc, elle a dû renoncer à un certain nombre de ses forces. Comme par exemple, elle a renoncé au droit au travail. Elle a renoncé au droit à un logement à prix raisonnable. Deuxième erreur qui a été commise, c'est que la RFA a exigé, en échange de cette absorption, un certain nombre de garanties économiques. Et cette garantie, cette monnaie d'échange, ça a été la privatisation de toutes les entreprises de RDA, voire même leur démantèlement. Alors, ça, d'accord à la limite pour les entreprises qui n'étaient pas viables. Mais certaines d'entre elles étaient parfaitement viables sur le plan économique. Elles auraient très bien pu être maintenues. Et donc, malgré cela, elles ont été privatisées ou même complètement démantelées. Et donc, pour répondre aux besoins des consommateurs d'ex-RDA, eh bien, ce sont les entreprises basées dans les lenders d'ex-RFA qui ont augmenté leur production et qui ont simplement envoyé les produits en Allemagne de l'Est, enfin en ex-Allemagne de l'Est. Et comme ça, en 1 ou 2 ans, c'est tout le tissu économique de l'Est qui a été vraiment réduit à peau de chagrin. Et donc, on a vraiment là créé un déséquilibre structurel qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que cette erreur gravissime a été commise? Eh bien, c'est très simple. Parce que la décision de réunifier les deux Allemagnes de la sorte a été prise non pas par des économistes, mais par des politiques. Bon, en l'occurrence, Helmut Kohl et à peu près lui seul. Et il a pris sa décision sans s'appuyer sur la moindre étude économique à long terme. Et ça c'est une erreur que l'Irlande du Nord et que la République d'Irlande ne peuvent pas commettre si elles décidaient d'envisager vraiment une réunification. Mais d'ailleurs, est-ce qu'elles le souhaitent? C'est très difficile à dire, évidemment, puisqu'il n'y a jamais eu de référendum de part et d'autre de la frontière. Moi, ce que je sais, c'est que du côté de l'air, on craint vraiment le coût de l'absorption de l'Irlande du Nord, parce que comme vous le savez peut-être, hein, d'après les chiffres officiels, l'Irlande du Nord est pauvre. Et elle survit en partie grâce aux aides structurelles de l'Union européenne et en partie grâce aux aides publiques du gouvernement britannique. Oui, mais attention, les chiffres qu'on utilise pour dire que l'Irlande du Nord est pauvre, ce sont des chiffres bruts. Ils ne tiennent pas compte des entreprises qui opèrent en Irlande du Nord. Donc prenons n'importe quel supermarché, hein, le supermarché Tesco, vous connaissez peut-être. Eh bien, il y a des Tesco en Irlande du Nord, mais ces entreprises payent leurs impôts via leur siège, et le siège, lui, il est en Angleterre. Oui, mais en cas d'indépendance de l'Irlande du Nord du reste de la Grande-Bretagne, si l'Irlande du Nord était réunifiée avec la République d'Irlande, alors ces entreprises, elles devraient payer des impôts en Irlande. Et donc, peut-être que l'Irlande du Nord, finalement, est beaucoup plus riche qu'on le pense. C'est simplement que les chiffres aujourd'hui ne tiennent pas compte de ce que serait la réalité en cas d'une réunification. Enfin bref, ceci n'est qu'un exemple, mais il vous montre à quel point la situation est complexe et devrait être très bien étudiée par des experts si on voulait éviter de répéter certaines erreurs du passé. Je vous remercie.